Où va l'industrie ? Un podcast PTC. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque ? Que peut-on en attendre ? Je suis Axel Gertin et je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0, avec de nouvelles approches et technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Bienvenue dans Où va l'industrie, le podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent. Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est le dernier d'une série de 4 discussions qui explorent le potentiel du jumeau numérique, aux côtés de nos experts Laurent Germain et Olivier Gore. Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Axel.
Laurent, nous avons déjà eu une première discussion lors de laquelle vous nous expliquiez ce qu'est le jumeau numérique, puis une seconde consacrée à son impact sur la R&D. Nous allons aujourd'hui parler de ses impacts sur les processus industriels et la fabrication. Avant de rentrer dans les détails, Laurent, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un jumeau numérique ?
Oui, Axel. On a déjà évoqué le jumeau numérique au niveau des produits, donc un produit tel que conçu et fabriqué par des services de recherche et développement, puis ensuite des produits qui sont utilisés et maintenus par des clients et des utilisateurs. Donc on a jusqu'à présent effectivement parlé des jumeaux numériques d'un produit comme étant un prototype 3D qui est vivant, contenant toutes les informations passées de la vie, de la documentation liée à ce produit et qui vont permettre de pouvoir à la fois fournir toutes les informations sur son utilisation, optimiser et prévoir au mieux les étapes de maintenance grâce à une connaissance fine du passé. Quand on s'intéresse à la fabrication, évidemment, on va plutôt mobiliser ces jumeaux numériques, non pas au niveau du produit lui-même, mais plus au niveau des outils et des moyens de production.
Se représenter le jumeau numérique d'un processus ou d'un outil paraît moins évident que se représenter le jumeau numérique d'un produit physique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ?
Alors, encore une fois, on va pas raisonner au niveau du produit, mais plus au niveau de l'usine. Et si on fait un zoom sur une usine, on a des moyens de production organisés dans une chaîne de fabrication avec des lignes de production, et sur chaque ligne de production, on a différentes machines en charge de réaliser ces opérations. Et les produits passent de poste en poste, de machine en machine, pour être complétés, assemblés au fur et à mesure de cette chaîne d'assemblage. Donc tout ça, on va pouvoir le modéliser parce que chacune de ces machines, finalement, va potentiellement être connectée, va potentiellement avoir un certain nombre de réglages, et puis ces machines vont peut-être communiquer entre elles. Il y a des tapis roulants, donc là on va parler peut-être de flux logistique entre les différents postes de travail de l'usine. Et donc le jumeau numérique de l'usine, c'est finalement modéliser tout cela, donc les flux matières, la façon dont un produit va être progressivement assemblé et monté sur les différents postes, et de pouvoir gérer, optimiser et superviser au mieux ces opérations. Donc le jumeau numérique, il va à la fois pouvoir identifier des points de tension, de rupture sur des approvisionnements, peut-être passer de matière première à un endroit, peut-être des goulets d'étranglement à d'autres. Et donc l'idée du jumeau numérique, c'est à la fois de capturer le fonctionnement des machines de production, de l'état des flux, de l'état de santé des machines, pour pouvoir comprendre le fonctionnement et surtout prédire à la fois des pannes, mais aussi des changements de recettes ou d'optimisation ou d'organisation de cette ligne de fabrication.
Olivier, vous accompagnez quotidiennement les entreprises industrielles. Comment le jumeau numérique est utilisé aujourd'hui dans la fabrication par nos industriels ? Quels sont les principaux cas d'usage ?
Alors, il y a plusieurs volets. Il y a la partie, j'appellerais ça la conception de la chaîne de production, d'une part. Après, c'est comment optimiser la fabrication une fois que cette chaîne est en route. Aujourd'hui, pour les industriels, construire l'usine d'une manière complètement numérique va leur permettre d'optimiser tous les flux en faisant remonter aussi bien les informations en temps réel sur l'énergie, les chaînes de livraison, les postes de travail. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a fait toute cette simulation de l'usine, de la chaîne, des processus, c'est beaucoup plus facile après pour aller mettre en route les choses. Ce qu'il faut bien comprendre, on a des industriels, par exemple, qui vont fabriquer un produit de bière à base de l'alcool, et puis les tendances, c'est sans alcool, et ben ils vont pouvoir, grâce aux jumeaux numériques, simuler les lignes, simuler les chaînes, simuler les process, pour vraiment bien stabiliser tout ça, voir les goulets d'étranglement. Et une fois que c'est fait, ils peuvent lancer la production d'une manière beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de gains à la sortie. Donc tout le monde est content.
Ok, ça c'est pour la partie conception des lignes de production. Et une fois qu'on est face à une ligne qui tourne, quels sont les cas d'usage du jumeau numérique ?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs industries. Il y a soit ce qu'on appelle l'industrie de process, ou l'industrie de discrete, ok. Donc c'est pas les mêmes procédés. Et par exemple, dans la partie process continu, si on a la possibilité de simuler à chaque fois les contrôles qualité, etc., c'est mieux, parce que si on arrive avec une mauvaise qualité en fin de ligne, c'est une triple peine pour les industriels. Ils vont perdre la matière première parce que elle correspond pas. Ils vont perdre le coût de l'énergie pour faire fonctionner les machines, etc. Et en plus, le coût de la main d'œuvre. Donc c'est vraiment des pertes qui sont pour eux très dommageables. Donc il est important de bien simuler ces process. Et puis après, vous avez l'industrie, ce qu'on appelle le discrete manufacturing, où lorsque vous fabriquez des pièces en titane, par exemple, qui valent extrêmement cher, c'est bien d'avoir le jumeau pour faire des contrôles de qualité, être sûr qu'on est dans les tolérances. Et les deux vont se rejoindre sur un point, ce qu'on appelle le first pass yield, c'est la façon de faire bien du premier coup. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, vu la difficulté des industriels, il faut une sacrée résilience. Quand vous voyez l'inflation, le coût des matières premières, la supply chain crunch, très difficile, et sans oublier la crise de l'énergie, vous comprenez bien avec moi que de bien produire du premier coup, c'est important. Et puis c'est surtout aussi, lorsque vous faites bien du premier coup, vous tenez vos délais et la satisfaction client est énorme, très très importante.
Alors la question qu'on se pose souvent avec l'industrie 4.0 et donc avec le jumeau numérique, c'est est-ce que c'est réservé aux grands groupes ? Est-ce que les PME et ETI industrielles y ont droit elles aussi ? Est-ce que ça vaut le coup qu'elle s'y intéresse ?
Oui, les deux doivent s'intéresser à ça parce que aujourd'hui, les technologies sont matures, répandues, relativement faciles à être utilisées. Par contre, il faut bien faire au niveau des industriels, entre un grand et un petit, si je puis dire. Il y a vraiment trois grands piliers qui vont être la réussite. Ce qu'on appelle l'impact, c'est-à-dire quel va être l'impact financier sur le use case que je vais mettre en place. Alors, dans des grands groupes, il y a certainement plus de moyens, etc. Donc, on peut être un peu plus ambitieux. Alors que dans des PME, on va peut-être réduire un peu cet impact financier, mais on va peser l'effort. Si on réduit un impact financier avec peu d'efforts, il faut le faire, parce que ça va être important pour eux. Ensuite, il y a ce que j'appelle le côté speed, le côté rapide. Il faut qu'aujourd'hui, grâce aux technologies, les gens puissent faire quelque chose rapidement, d'une manière agile, afin d'être résilients. C'est fini les projets bing-bang où on partait pour des mois, des années, etc. Ça fait moins de sens avec le jumeau numérique. Au contraire, il faut vraiment être agile. Et puis le troisième pilier que les industriels doivent avoir à l'esprit, qu'ils soient grands, petits ou moyens, c'est comment ils vont déployer ça d'une manière rapide et réutilisable. Parce que plus ils vont déployer, parce qu'il y a plein de petites PME qui sont peut-être même multi-site ou pas, ou multi-ligne, etc., il faut que ça soit réplicable facilement, sans effort. Et c'est là où vraiment le gain est au rendez-vous.
Quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les écueils à éviter dans une démarche d'adoption du jumeau numérique ? Quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui démarre ?
J'ai lu un article récemment dans la presse où Metaverse a commandé une étude à Deloitte sur justement l'adoption du jumeau numérique. Aujourd'hui, l'étude fait ressortir plusieurs points. Un point qu'on savait déjà, que le frein finalement au jumeau numérique, c'est la partie hardware, les lunettes ou autres, parce que c'est pas encore très fluide et c'est un peu cher, etc. Donc ça peut être un frein. Mais d'un autre côté, l'étude montrait des économies d'échelle. Rien que pour l'industrie française, on parlait de plusieurs milliards. On était dans les 50 milliards sur les 10 prochaines années d'économies grâce aux simulations et grâce aux jumeaux numériques. Donc c'est phénoménal. Et on est au tout début de l'aventure au niveau des entreprises. Mais pour une fois, c'est important, la partie techno-logicielle est déjà là. Voilà.
On comprend que la technologie logicielle est là. On parle aujourd'hui aussi beaucoup de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quel rôle peut jouer l'IA dans le jumeau numérique ?
Alors évidemment, les progrès du logiciel, et on en parle beaucoup en ce moment, soit au niveau de l'IA, donc de l'intelligence artificielle dont on entend parler plusieurs fois par jour, mais aussi maintenant des modèles génératifs tels que ChatGPT qui peuvent aller plus loin puisque aider à synthétiser des données et à prendre des décisions. Donc aujourd'hui, dans l'usine, en quoi ces améliorations-là peuvent aider ? Eh bien, le simple fait de pouvoir, dans un premier temps, superviser des machines, capturer leur état de fonctionnement via les différents capteurs, via des rapports d'activité, via des cycles de maintenance, eh bien, va permettre d'établir des algorithmes qui vont pouvoir optimiser d'une façon préventive des opérations de maintenance pour éviter des pannes. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais ensuite, si on veut aller plus loin, un petit peu comme un réseau neuronal, on va essayer de regrouper la chaîne de fabrication dans son ensemble et s'assurer que tous les paramètres des différentes machines soient optimisés entre eux pour que, typiquement, dans le cas d'une nouvelle recette, si l'on est sur une chaîne de production de type boisson ou alimentaire, eh bien, que l'ensemble des réglages soient cohérents entre eux et qu'en termes de flux, on ait trouvé les réglages optimum de l'intégralité des machines pour que toutes soient parfaitement optimisées et synchronisées entre elles.
Merci Laurent. Sur ce podcast, on aime bien extrapoler, expliquer que les avancées technologiques qui marquent l'industrie ont un impact sur d'autres secteurs et sur nos vies quotidiennes. Mais là, on a un peu de mal à voir des applications autres que pour l'industrie. Est-ce que vous auriez des exemples ?
Oui, on en a plein, parce qu'aujourd'hui, le jumeau numérique va aussi toucher les gens qui sont nomades, qui se déplacent, qui vont réparer des choses, soit chez les particuliers, soit dans les entreprises. Et aujourd'hui, bah, les gens ils savent pas tout, etc. Et d'avoir un jumeau numérique lorsqu'un technicien nomade est bloqué devant quelque chose, comme vous le savez aujourd'hui, il y a plus personne qui lit les manuels depuis pas mal de temps. Donc le gars, il a un smartphone, un iPad ou autre, et là on a le jumeau numérique et on va l'aider à remplir sa mission, sa tâche. Et ça c'est important parce que il peut pas tout avoir, il va pas avoir tous les manuels dans son camion ou dans sa voiture. Et il y a peut-être des jeunes qui arrivent sur le terrain et qui vont réparer des machines un peu plus anciennes. Bah, voilà, c'est la première fois, ils sont confortés. Eh ben non, il y a le manuel, il y a tout ça. On se rend compte aussi que grâce aux jumeaux numériques, on fait beaucoup de transmission de savoir. Et ça, pour les entreprises, c'est une mine d'or. On se rend pas compte, mais lorsqu'un sachant s'en va en retraite ou autre, eh ben, c'est beaucoup de savoir qui part. Et le temps de reformer une nouvelle personne, ça coûte de l'argent, c'est un cycle long, etc. Donc là encore, les économies sont là et ça touche les grands, les petits. Et ça, c'est important.
Alors, j'ai bien compris, Olivier. Laurent, est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner ?
Oui, alors, on a beaucoup d'exemples, Axel, dans d'autres domaines. On avait un petit peu évoqué dans le passé cette notion de smart building. On peut étendre ça à cette nouvelle notion où maintenant de nombreuses municipalités essayent de repenser leur centre-ville et la façon d'optimiser les villes dans leur ensemble. Alors, ça passe par plein de choses, à la fois de pouvoir redéfinir les types de mobilité, autrement dit, quelle place on va donner aux voitures. Est-ce qu'on construit plus de routes ou est-ce qu'au contraire, on va favoriser des déplacements piétons ou cyclistes en rajoutant des pistes cyclables? Et tout ça, un jumeau numérique peut, rien que sur ce sujet-là, beaucoup aider en modélisant les flux de circulation, en comprenant comment les gens vont se déplacer en multimodalité, commencer un trajet à pied, le continuer via un bus et puis éventuellement le finir avec une trottinette en location. Donc toutes ces choses-là aujourd'hui, y réfléchir c'est bien, mais pouvoir les modéliser pour s'assurer que ça va répondre à l'intégralité des besoins, c'est quelque chose que l'on peut faire grâce aux outils de simulation liés aux jumeaux numériques. Et toujours sur ce sujet de la ville du futur, on parle aussi beaucoup du réchauffement. Donc on avait évoqué au tout début le fait que l'on était capable de faire des jumeaux numériques dans son ensemble de la planète Terre, mais donc à un niveau plus modeste, on peut aussi le faire au niveau d'une agglomération ou d'une ville, en par exemple étudiant l'impact des îlots de verdure que l'on va placer dans tel ou tel quartier pour permettre de gagner quelques degrés en faisant que justement ces zones arborées remplacent des zones qui auparavant étaient couvertes de bitume, et donc on sait aujourd'hui très clairement indiqué qu'en faisant cela, on va réduire la température dans les centres-villes de 3 ou 4 degrés. De la même façon, gérer la hauteur des bâtiments pour peut-être avoir plus d'ombre et éviter des rues trop chaudes, etc., etc. Donc, on voit que l'impact du jumeau numérique, il peut s'appliquer à tous les secteurs, et c'est, pour rebondir sur le tout premier épisode, on peut faire un jumeau numérique de n'importe quel individu pour des questions de santé, de la planète Terre pour surveiller son évolution et le taux de CO2, ou d'une ville intelligente, ou d'un produit, comme on l'a évoqué, au travers de ces aspects plus industriels dans les précédents épisodes de ce podcast.
Merci beaucoup Olivier et Laurent, c'est le mot de la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette série sur le jumeau numérique. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec Arnaud Pichard de l'association Retour de l'Industrie en France. Pour ne pas le louper, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.